Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Ota Club, un Ota Club particulier tout à fait parce que nous sommes déjà en live Twitch actuellement avec Andrea. D'ailleurs bonjour Andrea, comment vas-tu ?
Coucou Peli, ça va bien et toi ?
Eh ben, ça va très bien, moi j'adore être en live Twitch avec toi, c'est marrant, avec les followers aussi, on s'amuse bien, on discute un peu horreur, surtout que là on est au mois d'octobre et qui dit mois d'octobre, pardon, dit Halloween. Et c'est pour ça qu'on a fait exprès de faire ce live aussi, où on va parler de quatre récits d'horreur qu'on a lus et appréciés, oui. Je l'espère.
Moi oui, en tout cas.
Moi aussi, hein, justement, pour une fois, c'est un 100%, c'est imperfect par rapport à la dernière fois.
Excellent.
Donc ça, c'est assez cool. Et dans le chat, n'hésitez pas aussi à nous dire si vous les avez lus et si vous les avez appréciés. Donc, tu vas commencer en parlant de Miroko-chan, c'est ça ?
Miroko-chan, Slice of Horror, tout à fait, ce titre beaucoup trop long, encore une fois. J'aurais un problème avec les mangas au titre interminable. Alors, Miroko-chan, abrégée sous le petit pseudo de Miko, est une jeune fille qui est au lycée et qui a malgré elle la capacité de voir les monstres qui peuplent notre monde. Car oui, on ne le sait pas, mais les esprits et les horreurs sont partout parmi nous, essayent de nous toucher, essayent désespérément de se faire repérer des humains. Sauf que bah, quand ils s'aperçoivent qu'on ne les voit pas, ils passent leur route. Et donc notre petite Miko... Elle a très bien compris ça et elle fait tout son possible pour ne pas les voir, pour faire semblant de qu'ils ne sont pas là, quoi. Et donc, bah, ils finissent par passer leur route, mais elle est toujours au bord des larmes, voire même des fois, elle en pleure parce qu'elle n'en peut plus. Parce que c'est là qu'est toute la maîtrise dans ce manga. C'est dans la façon de dessiner les monstres de cet auteur. Mais alors, les Japonais sont fous, on le savait, mais alors, lui, il en tient une couche. Mais ces monstres, ils sont horribles. Et dans sa mise en page aussi, c'est très très fort, parce que, bon, on est en train de lire notre page, on voit le monstre arriver un peu de loin, il dépasse un petit peu. Et quand on tourne la page, on l'a en très gros plan, avec sa gueule juste pas possible. Eh mais c'est terrible. Et je pense pas que ce soit fait à la tablette. Parce que c'est tellement crayonné, tellement irrégulier... Clairement, ça s'est fait au feutre. Et il a un talent de ouf. Et en plus de ça, ce qui est un talent assez incroyable aussi, c'est que donc pour l'instant, il y a 6 tomes qui sont sortis, mais c'est pas encore fini. Mm-hmm. Dans les 5 premiers, clairement, il se passe rien. Voilà, on va suivre la vie quotidienne de cette pauvre Miko qui voit ses monstres partout. Et c'est tout. Alors, quand je dis il se passe rien, j'exagère un peu, parce qu'en fait, sa meilleure copine attire les monstres à elle. Voilà, en plus de ça, c'est un aimant à monstre, cette fille. Donc, Miko, quand elle la voit avancer dans la rue et se diriger droit vers un mastodonte complètement difforme, elle n'a qu'une envie, c'est d'essayer de la faire se détourner. Sauf qu'elle se dit que si jamais elle dit à sa pote, qui s'appelle Anna, de ne pas avancer, le monstre va se rendre compte qu'elle le voit et du coup va venir l'attaquer. Donc, en fait, elle est toujours prise entre deux feux, comme ça. Ou non, faut pas que je leur montre que je les vois, faut que je les ignore, et non mais je peux pas laisser Anna lui foncer dedans, non mais je peux pas. Il y en a, ils commencent à tripoter Anna et tout, parce qu'ils arrivent, ils ont plein de bras, ils ont plein de mains, ils ont un sourire pervers jusqu'au-dessus des yeux, et donc forcément, ils viennent la tripoter, elle est là, non mais c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire? Et non, il faut rien faire en fait, et c'est horrible. Et c'est ça en fait, c'est qu'on partage un peu ça avec elle. Mais comment je réagirais moi si je voyais ça déjà? Alors honnêtement, moi je pense que j'aurais déjà pété un câble depuis longtemps.
Ouais.
Parce que des fois on se dit, ouais non, les monstres ça va, il y en a, ils sont sympas, moi j'ai pas peur. C'est parce que vous avez pas encore ouvert un tome de Slice of Horror. Clairement, on voit ces choses, on devient direct dingue. Mais bon, ça va quand même évoluer quand on va apprendre que si elle les voit, c'est parce qu'elle fait partie d'une catégorie spéciale de personnes. Je sais plus si c'est des prêtres, des voyants ou des trucs comme ça. C'est par rapport au bouddhisme. Et donc, elle va faire la connaissance d'autres gens qui peuvent les voir. Notamment une autre lycéenne qui en voit, mais beaucoup moins qu'elle. Une vieille voyante qui les combat depuis toujours. Et un prestidigitateur... J'ai réussi à le dire en une fois, qui lui les voit très très bien aussi, et on se rend compte que ouais, il est haut placé aussi dans le terme de visionnage de monstres. Mais c'est le gars, en fait, il me fait un peu penser à Chris Angel, si vous connaissez un peu le magicien gothique. C'est un peu, je pense qu'il est un peu inspiré de ce mec-là, avec un look assez improbable, avec vachement la tchatche et tout. Et donc, il est un peu en décalage avec Miko, qui elle, est toujours au bord de la dépression, quoi. Mais ouais, on va suivre, à partir du tome 6 principalement, leur avancée dans une montagne où il y aurait un dieu qui sommeille et qui peut-être aurait une solution pour eux. Donc vraiment très cool. C'est ça qui est fort, c'est que malgré qu'il ne se passe pas énormément de choses dans les tomes, on ne s'ennuie pas. En fait, c'est presque de la tranche de vie horrifique. Voilà.
C'est joliment dit.
Je vais lancer un nouveau style de manga. Voilà. Ce genre d'histoire où il se passe pas grand chose, mais on est bien. Mais là, on n'est pas bien parce que à toutes les pages, il y a un truc dégueulasse, quoi. Mais genre, un moment où il y a Anna qui lui demande d'attraper son portable en haut d'un casier, ce qui est un peu plus petite qu'elle. Donc, Miko étend la main, elle voit qu'il y a juste le haut d'un crâne qui dépasse. Hein. Et du coup, quand elle met la main pour attraper son téléphone, il y a la tête qui sort complètement, mais avec les yeux crevés, pas en face l'un de l'autre, avec une bouche gigantesque. Enfin, mais vraiment un truc de l'enfer, quoi. Et, et elle doit mettre sa main dedans quand même pour aller chercher le téléphone. Parce qu'elle dit, il ne faut pas qu'il sache que je sais qu'il est là. Ah, c'est horrible. À un moment, elle prend sa douche, elle sort de son bain et il y a un truc qui est dans le coin du mur, genre il est puni. Et elle dit, non mais il fait quoi? Il dort, il attend que je sorte pour se retourner. Qu'est-ce qui se passe? Ah, horrible. Horrible. Et il y a un passage aussi avec un monstre qui est avec une tronçonneuse. Elle est dans le bus. Et il commence à mettre des coups de tronçonneuse dans tout le monde.
Sympa.
Voilà, donc forcément, les humains normaux qui ne les voient pas, ça leur fait ni chaud ni froid. Mais elle, elle le voit arriver. Et forcément, même si on sait qu'il n'y aura pas de vrai contact physique, s'il y a quelqu'un qui arrive avec une tronçonneuse qui nous en met un grand coup dans la tête, forcément, on a une réaction. Et là, elle mobilise toute sa volonté pour dire « Non, faut pas que je bouge, parce que sinon, il va me griller. » Et là, je ne sais pas ce qu'il pourrait me faire. Parce qu'elle a déjà eu quelques fois où elle a été vraiment en contact physique avec ces monstres-là, et ben ils passent au travers en fait. Parce qu'elle arrive à faire genre de ne pas les voir. Mais est-ce que s'il se rend compte qu'elle les voit, il ne pourrait pas déclencher le vrai contact? C'est trop bien. c'est trop dégueulasse, mais c'est trop bien. Et ouais, on est toujours dans le mal avec elle. Donc, après, oui, c'est vrai que c'est particulier quand même comme thématique. Mais rien que sur les couvertures, la pauvre est toujours en train de pleurer, toujours au bord de la crise de nerfs.
C'est vrai qu'on sent que sur les couvertures, elle est un peu triste, la pauvre.
Ah ouais, mais en même temps, elle a tellement une vie de merde. Et ouais, il y a un truc drôle avec sa copine Anna, c'est que quand les monstres sont autour d'elle, ils pompent son énergie. Donc en fait, elle passe son temps à bouffer. Mais tout le temps, mais des montagnes de donuts en permanence, parce qu'elle adore les donuts. Et elle dit, je peux manger tout ce que je veux, je prends pas un pet de gras. Bah oui, en fait, tu te fais juste pomper ton énergie vitale par des fantômes, donc tout va bien. Mais ouais, il y a quand même quelques passages un peu plus légers. Même des fois, la pauvre Miko, elle est tranquille, il n'y a pas de monstre dans le coin. Hein. Jusqu'au moment où il y en a un qui arrive. Voilà. On n'est jamais vraiment safe très très longtemps. Donc,
Il se fait avoir.
Ah ouais, vraiment trop trop bien celui-ci. J'ai adoré. Je m'attendais pas à ça. Mais vraiment génial. Les tops sont assez courts, malheureusement.
Oui, puis je vois en termes de date de sortie, là, le prochain, il est programmé pour février 2024.
C'est
alors
long.
Que le dernier était sorti en juin.
C'est long. Alors, c'est chez Ototo, qui déjà est un éditeur qui a du mal à sortir rapidement ses tomes. Et alors, on ne colle pas encore à la diffusion japonaise, parce que je sais que le tome 8 est déjà sorti là-bas et il va pas tarder chez nous aussi. Mais voilà, il traîne un petit peu à les sortir.
Ouais, c'est ça. Et le tome 9 fait apparaître aussi au Japon. Voilà. Donc ouais, effectivement, c'est vrai que c'est assez long, mais bon.
Au final, c'est pas une série qui va vous ruiner parce qu'il y aura 60 tomes à acheter d'un coup. Non, un par an, c'est bien.
Bon, c'est vrai.
Voilà, en vrai, Spy Family, ça va être pareil maintenant, donc un.
Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu finalement. Ça, du coup. Bon. On a aussi un animé sur Crunchyroll.
Oui, oui, qui malheureusement n'a pas de VF. Vous savez que, ok, je vais quand même prendre des caillasses, mais je m'en fous. Moi, je suis team VF. Et alors, j'avais regardé quelques coucou. J'avais, pardon, je dis coucou à quelqu'un qui vient d'arriver dans le chat et qui a dit coucou. j'ai regardé quelques épisodes et de les voir en couleur, ces monstres. Je sais pas si c'est pire parce qu'ils sont, sont vachement dans les teintes de bleu foncé. En noir et blanc, ils donnent bien.
Je viens de voir une image là de l'animé, effectivement, ouais, ils sont pas mal en animé aussi. Hein.
Ouais, ça donne de ouf. Et c'est vrai qu'on entend toujours sa petite voix derrière qui est en angoisse. Je les vois pas, non, je les vois pas, c'est pas vrai, ils sont pas là, je les vois pas, faut pas qu'ils me voient.
Ouais, donc, en plus, en japonais, ça peut être vite flippant.
Oui, avec leur petite voix suraiguë de Lolise, donc.
Ouais.
Ça fait encore plus un décalage. Mais ouais.
Ça peut être vite flippant, c'est sûr.
Exactement. Alors, je sais pas jusqu'où va l'animé pour le coup, c'est vrai que je l'avais pas continué. Mais
alors là, je saurais pas te dire.
Par rapport au tome, il y en a pas beaucoup, je crois. Vraiment des épisodes, pour l'instant, il y en a pas encore énormément.
Non, donc... bah si après, si c'est au même rythme que le manga, enfin si c'est légèrement moins avancé que le manga, je pense que ça va prendre son temps. Et...
c'est clair.
Malheureusement.
C'est ça.
Il faudra être patient. Est-ce que dans le chat, vous l'avez déjà lu ? Est-ce que vous l'avez lu ? Est-ce que vous avez aimé ce récit ? N'hésitez pas à nous l'indiquer dans le chat ou même en commentaire pour ceux qui écoutent le podcast. Ou est-ce que ça vous tente ? Voilà, oui, tout à fait.
Est-ce que j'aurais réussi à vous donner envie de vous donner des visions de cauchemars en permanence ? Parce qu'une fois qu'on a lu ça, bah, on ne va plus dans une ruelle sombre, on n'ose plus regarder derrière les coins de mur, on se dit « Hey, il y en a un qui va sortir !» Il y en a un particulièrement dans une ruelle entre deux bâtiments, ces trois monstres les uns dans les autres.
Oh, mon Dieu.
Ah, il est terrible. En fait, à la base, elle suit un petit monstre, il doit faire quoi, 20 cm de haut ? Il est tout choupi, celui-là. Il court. Alors du coup, elle le suit. Et là, il rentre dans une énorme bouche d'une tête qui est posée par terre, entre les jambes d'un monstre encore plus gros qui doit faire dans les 2 mètres de haut. Fait... ah ! Très bien. Dégueulasse.
Alors, dans le chat, on a Sabi Karib qui nous dit « Oui, 3 tomes, et oui, les monstres sont horribles. » On a Amy qui nous dit « À ton avis, pour moi,
ah, non,
pense
pas
qu'à
du
mon
tout.
Avis, elle doit pas du tout aimer les récits ou même les films d'horreur. » Toff2503 qui nous dit « J'ai vu l'anime et du coup, le manga me tente bien. » Et on a Loxy qui nous dit « Non, je les ai pas lus, mais j'ai envie maintenant que tu as réussi à me donner envie. » Eh bien, c'est ça qu'on aime bien chez Ota Club, c'est de donner envie de lire ces récits-là.
Oui, on est un peu là pour ça à la base, vous faire découvrir des séries que vous n'avez pas encore tentées et vous donner envie de les lire. Parce que bah, c'est sûr, si on vous dit « Non, mais en fait, c'est nul !» Bon.
Non, c'est nul, c'est pas top. Non, mais même quand on dit que c'est nul, hein, souviens-toi, quand j'ai parlé d'un récit nul, on est toujours assez modéré aussi. Hein, on explique
exactement
bien pourquoi est-ce qu'on n'a pas aimé, voilà. Et les goûts et les couleurs, de toute façon. Hein, voilà.
Bah, c'est ça, hein, bah, voilà, moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire, mais effectivement, si les monstres et histoires d'horreur, c'est pas votre délire, clairement, vous dirigez pas vers ça. Hein. Si vous allez faire des cauchemars. Non mais vraiment, faut c'est que ça, je me renseigne c'est... si cet auteur fait pas autre chose. Si c'est pas le cas, il va falloir qu'il le fasse, parce que bon, qu'il termine déjà ça. Mais ses illustrations sont folles, vraiment, j'adore.
Bah, l'auteur, en termes de manga, non, pour l'instant, il a juste fait Slice of Horror, et là, en 2021, il a sorti, du coup, une anthologie comique de Slice of Horror. Donc, je pense que ça doit être un... voilà, c'est un... c'est en atome, mais c'est juste en VO. C'est pas encore sorti en VF.
Nul. J'ai envoyé un petit mail au Toto.
Ouais, c'est l'anthologie officielle du manga Meruko-chan mettant en scène les personnages de la série à travers 13 histoires inédites. Donc peut-être que ça sortira dans quelques temps en France, on espère.
J'espère. Ghost Whisperer en plus glauque. Ouais, ouais. Il y a de ça.
Ouais, c'est un peu ça, ouais, effectivement. Quand on regarde le résumé, effectivement, ça fait un peu Ghost Whisperer, ouais. Je suis d'accord.
Bien, Peli, à toi. Parle-nous d'un de tes récits d'horreur.
Eh ben, moi, je vais vous parler d'un récit que j'ai lu aujourd'hui. C'était pas prévu. Je suis tombé dessus et ça a été une énorme surprise et j'ai vraiment adoré. C'est Alors, je vais réussir à le dire. Pumpkin Night. C'est scénarisé par Okazono Masaya et c'est dessiné par Taniguchi Seima. C'est édité chez Mangetsu et le tome 1 est sorti au début du mois. Le synopsis, c'est une jeune fille qui s'appelle Naoko Kirino, c'est une élève martyrisée par ses compagnons de classe. Elle est envoyée dans un hôpital psychiatrique suite à une brimade qui a tourné au drame et qui lui a laissé des séquelles irréversibles. Un jour, elle tue ses médecins et s'évade dans le seul but de faire connaître l'enfer à ses bourreaux. Sous son masque de citrouille, elle va repousser les limites de la cruauté et se délecter de la souffrance de ses victimes sans s'épargner tous ceux qui se mettraient sur son chemin. Clairement, là, on est dans de l'horreur pure, on est dans du slasher bien gore, comme on l'a dit. Rien que déjà, la fiche du manga fait déjà assez horrifique. Pour le coup, je pensais tomber sur un... sur un récit d'horreur gentil qui monte en pression, voilà, où on construit le scénario au fur et à mesure. Et non, pas du tout. En fait, ça s'enchaîne directement. Le tome 1, il se lit très rapidement. C'est gore à souhait. Si vous aimez le gore, allez-y. Clairement, c'est pas du tout à mettre entre les mains de tout le monde. Il y a beaucoup de violence, donc c'est du 18+, c'est sûr et certain. Pour l'instant, on en est à 7 volumes en VO, et en France, nous, on a juste le premier. Le numéro 2 sortira au mois de décembre. Mais j'ai été vraiment ravi de lire ça et agréablement surpris, parce que je m'attendais à vraiment, comme je disais, un récit qui se construit sur plusieurs tomes. Là, ça s'enchaîne très vite. Et puis surtout, on se rend compte que cette jeune fille est complètement barrée. Donc voilà. Pour vous donner une idée en termes de série, c'est comme si, par exemple, dans la série Pretty Little Liar, c'est un peu comme ça, en fait. C'est un groupe d'amis du lycée qui, en fait, se sont moqués d'une jeune fille, et derrière, cette jeune fille se venge. Mais voilà, on sent qu'il y a des secrets entre eux, on sent qu'il s'est passé des choses et que ça va se développer au fur et à mesure dans le scénario. Donc moi, j'adore ce genre de récit. S'il y a du sang, s'il y a du gore, c'est encore mieux. C'est vraiment bien dessiné. J'aurais peut-être voulu peut-être 2-3 pages couleurs, ça aurait pu être sympa.
Grave.
C'est vrai que c'est dommage, mais par contre, c'est très très bien dessiné et ça vaut le coup. Donc c'est édité chez Mangetsu, donc si vous aimez ce style, bah, foncez et vous n'allez pas être déçus.
Il y a un truc qui m'a fait rire, parce que je ne l'ai pas lu encore, il est sur ma pile à lire, ouais. Très très haut, mais bon voilà. J'ai ouvert une page au hasard à un moment et je suis tombée sur un super plan culotte. Je fais non, même là ils ont réussi à en caler un. Quand t'es sur le bord de l'immeuble et qu'il y a une contre-plongée, et vu qu'elle est en jupe évidemment, vu que c'est une lycéenne, je fais non, là c'était pas nécessaire.
Oui, oui. Ça m'a fait ça.
Ça allège peut-être un petit peu le propos, je ne sais pas.
je ne saurais pas dire, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est. Ouais, il faut toujours qu'il place quelque chose, voilà, c'est comme par exemple à un moment il y a une victime, il y a un nibar qui sort, voilà.
Bah voilà.
Généralement dans les mangas on voit rien, mais là non, elle a la moitié du corps brûlé, mais non, il y a un nibar qui sort, on sait pas pourquoi.
Celui-là il a pas brûlé, il est safe.
Il a pas brûlé, il est safe celui-là, donc si elle survit, au moins on sait qu'il y aura un nibar qui aura survécu au coup de la tueuse. Non, par contre j'ai vraiment hâte de lire le tome 2, parce qu'on a un cliffhanger à la fin qui vraiment nous donne envie de lire le tome 2. Voilà, mais c'est très rapide à lire, il doit y avoir quoi, il y a 4 ou 5 chapitres dedans, donc c'est vraiment très rapide.
Sabine nous dit c'est pour détendre l'atmosphère. Je pense aussi qu'une fois de temps en temps, un petit élément inattendu comme ça, tu fais hein, mais voilà, ça fait rigoler un petit peu.
C'est ça, c'est un petit peu pour détendre l'atmosphère, comme elle dit. Exactement. Ouais. Le scénariste, donc Masaya, il a l'habitude des récits un peu horrifiques. On l'a vu dans Manga of the Dead, Freak Island, des choses comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est des mangas qui sont sortis en France, mais en tout cas, il a l'habitude, tout du moins, de faire des mangas horrifiques. Pour ce qui est du dessinateur, je ne le connaissais pas du tout, et d'ailleurs c'est son seul manga qu'il a fait, mais en tout cas je vais suivre sa carrière à Taniguchi Saima, parce que j'aime beaucoup son trait, franchement c'est...
C'est très propre.
C'est... Bah, ouais, entre guillemets, on va dire c'est propre, entre guillemets, malgré tout le sang qu'il y a dans
le dessin récit, est propre, voilà. Mais l'histoire ne l'est pas.
c'est ça. Alors coucou aussi Guitou, et dans le chat c'est pour les gamins, nous dit j'ai peu de mangas vraiment classés dans l'horreur, à la limite j'ai lu Happy Land en 2 tomes cette année qui n'est pas trop mal foutu, mais je ne suis même pas sûr de le conserver dans ma mangathèque, donc je suis content de découvrir votre sélection. Bah c'est fait pour ça, et effectivement là malheureusement ce ne sera pas pour les gamins.
Non, et Happy Land il est génial. Il est incroyable. Moi, j'avais eu le tome 1 un matin. Je dis, mais il me faut le 2 ce soir. Je peux pas me coucher sans avoir la fin. Et il y a un cliff à la fin. Pff, je l'avais pas vu venir, celui-là. Vraiment, j'ai adoré. Je sais pas si vous connaissez Happy Land. Une petite famille.
Pas du tout.
Non, bah, c'est une petite famille qui arrive dans un parc d'attractions tenu par un mec à tête de lapin. Il y a plein de familles. Okay. Personne ne se rappelle comment ils sont arrivés là. Et ce mec arrive et dit, bon... Chaque personne ici présente va devoir participer obligatoirement à une attraction au moins. Si vous participez pas, vous vous faites bouffer. Et là, il y a des espèces d'animaux humanoïdes chelous géants qui arrivent et qui effectivement bouffent ceux qui essayent de s'enfuir. Bon. Et donc, c'est la fille de la famille qui se dévoue la première à aller dans l'attraction. Et pour s'en sortir vivant, ils ont une chose à faire. Une chose que je ne vais pas divulguer parce que ça spoile complètement l'intérêt de l'histoire. Mais ouais, c'est chaud. Et là, pour le coup, c'est psychologique de ouf. Parce que ça pousse tous les personnages dans leur dernier retranchement, à savoir, est-ce que je fais ça ou est-ce que tant pis, je meurs? En vrai, c'est quoi le pire? Et c'est hard. Alors toi, tu l'avais vu venir, le cliff. Moi, non. Après, c'est peut-être parce que je l'ai lu quand ça faisait pas très longtemps que je lisais des mangas encore, donc j'avais pas encore toutes les habitudes des mécanismes. Peut-être que maintenant, je le verrai venir.
Il nous dit aussi, c'est un manga pervers.
Oui, il est très très pervers. Oui. Psychologiquement, ouais, il est très très pervers. Tu dois choisir entre faire cette action-là, qui peut ruiner ta vie, ou mourir. Voilà, vas-y. C'est un peu comme Saw, tu vois, jusqu'où ouais, voilà, t'es prêt à aller. Un manga. Mm-mm. Donc, non, ouais, vraiment. C'est, et c'est vrai qu'en deux tomes, très très cool. Moi, je le recommande à tous aussi... les gens qui disent « Ah, j'aime bien les histoires d'horreur, mais je veux un truc court. Allez.
» Bah, vas-y. Aussi dans le chat qui nous dit « Je suis une giga flippette dans les trucs d'horreur, donc j'y mal. » On a Amy qui est d'accord avec elle, mais qui écoute parce que ça l'intéresse.
Merci.
Et le mari de Oseguitu qui adore ça, il kiffe regarder les films d'horreur, mais moi je peux pas. Moi aussi je suis comme ça, j'adore regarder les films d'horreur. Mais pourtant ça me fait flipper, hein. Je suis le premier à me cacher les yeux des fois ou à faire des cauchemars ou autre, mais c'est cette sensation de vouloir se faire peur, ce petit grain de folie, même regarder les vidéos YouTube où tu sais que tu vas flipper un peu, mais j'aime bien ce côté-là.
L'humain est chelou, hein, il aime se faire du mal.
Oui, très. Oui, très très chelou. Donc dans le chat, dites-nous si ça vous a intéressé Pumpkin Night, le tome 1, si ça vous intéresse de l'acheter, si vous l'avez lu, bien sûr, n'hésitez pas aussi à nous l'indiquer en commentaire. Voilà.
Alors pour le coup, Pumpkin Night, pareil, c'est une page que j'avais ouverte. Si vous n'aimez vraiment pas l'horreur organique, à un moment, oui, elle plante un couteau dans la tête d'un gars, on le voit traverser par la bouche et la ressortir par la mâchoire. Hein, donc voilà, c'est...
Non, c'est... C'est pour ça que je disais, c'est horrible. Pour public averti, c'est 18 ouais, plus. C'est ouais, ouais, vraiment de l'horreur gore. On est dans du slasher vraiment gore. Voilà. Mm. C'est autant certains récits, on peut dire bon, c'est du psychologique, on peut se permettre, c'est pour tout le monde. Là, vraiment, si vous n'aimez pas l'horreur gore, les tripes qui pendouillent, etc. Non, passez votre chemin, ce sera voilà, ça va plus vous faire mal qu'autre chose.
Ouais, si vous aimez pas les massacres à tronçonneuses et consorts. Mm-mm.
Voilà. Voilà, voilà. Mais j'ai hâte de lire la suite parce que franchement, elle est vraiment barrée dans sa tête. Et voilà. J'ai des petites questions et j'aimerais bien avoir la réponse. On a Toff dans le chat qui nous dit déjà lu et hâte de lire la suite. C'est pour les gamins qui est intéressé par Pumpkin Night.
Sabi pas du tout.
Sabi qui passe son tour. Aussi qui nous dit le seul truc un peu gore horreur que j'ai réussi à regarder, c'est Walking Dead. J'ai trop aimé la série, mais très souvent je me cachais derrière mon ami l'oreiller. Bah oui, on a toujours un ami oreiller comme ça lorsqu'on regarde les films, voilà, ou les scènes malaisantes dans les films.
Grave, alors que voilà, les zombies ne me font ni chaud ni froid. Moi j'aime bien les zombies, justement, j'adore, c'est une de mes créatures horrifiques préférées, je pense.
Ça dépend, les zombies Walking Dead me font pas peur, par contre les zombies qui courent. Et qui genre
World War Z.
Mais voilà, ah ça non, oh là là, ça c'est. Ah je vois pas. Ou ouais, dedans, on a regardé avec ma copine il y a pas longtemps Rec.
Oui.
Qui est un film d'horreur espagnol très très bien réalisé, le premier tout du moins. Voilà, ça je peux pas. Ça par exemple, t'es sûr et certain que.
Ah mais ils sont terribles. Mais en fait, les zombies, c'est vraiment juste des bêtes sauvages qui ont qu'une envie, c'est de bouffer tout quoi. Et effectivement, ceux qui se traînent. Bon, tu dis, vas-y, j'ai le temps de partir, j'ai le temps de faire ma valise avant que tu me rattrapes. Mais ouais, ceux qui te courent après. Bon, après, dans World War Z, quand ils essayent de partir en hélico et qu'ils se grimpent tous dessus pour aller l'attraper, je vois. Là, par contre, il y a peut-être un peu exagération, mais. Mais c'était très cool.
Alors, c'est pour les gamins dans le chat, ils posent une question intéressante. Les zombies sont-ils plus cool que les vampires?
Oui. Les vampires ont beaucoup souffert de l'image de Twilight, malheureusement. Ils ont perdu toute leur superbe en acquérant des paillettes.
Dans les années 90, c'est ce qui se faisait au top avec la série Buffy contre les vampires. Et là, d'un coup, ils ont tout pété avec Twilight, malheureusement.
Entretien avec un vampire est génial.
Ah oui, entretien
avec Brad Pitt, avec Tom Cruise, voilà, avec Kirsten Dunst. Il est génial, franchement.
C'est un classique à regarder et à savourer. C'est devenu des boules de disco, ouais, c'est ça tout à fait.
C'est complètement ça. Les vampires, c'est mieux, mais version voilà. Buffy. Moi, j'ai jamais regardé Buffy, très certainement, ai-je raté ma jeunesse.
Alors, si tu regardes maintenant, j'ai une bête qui va me grimper dessus.
Il y a ton chat qui dit, moi, je suis mieux.
Alors, ça dépend. Si tu regardes maintenant, ça peut-être un peu mal vieilli sur certains aspects, mais par contre, ça reste pour moi la base de ce qui se fait maintenant en termes de séries horrifiques. Ils ont inculqué, ils ont réussi à rajouter de l'humour dans des scènes horrifiques. La majorité des méchants sont bien structurés, mais si tu le regardes maintenant, voilà, c'est... Certaines scènes sont un peu malaisantes. C'est comme la dernière fois, je suis tombé sur un épisode de Charmed. À l'époque, ça allait. Là, maintenant, j'étais, oula, c'est très mauvais. C'est, oula, c'est particulier.
Tu m'étonnes. Alors, on nous parle de Walking Cat. Voilà, comme quoi les zombies, c'est mieux que les vampires. On a fait des chats zombies, enfin, d'un apocalypse zombie. L'autre fois, tu nous parlais de Night of the Living Cat.
Bah oui, on en a parlé.
Ce sont des chats zombies, pas des chats vampires.
Voilà.
Voilà.
Mais par contre, Amy a tout à fait raison dans le chat. Répare cette erreur. André,
peut-être, me ferais-je tout Buffy.
Voilà. On a manqué 2-3 trucs aussi. On a l'Oxy qui dit ça me tente moins, j'avoue, mais why not, le gore ne me dérange pas. Oui, oui, ça peut être intéressant. Après, c'est pas forcément le gore qui peut déranger, mais aussi, par exemple, la série de films Saw, c'est gore, mais par contre, scénaristiquement parlant, je trouve que c'est réussi. L'enchaînement des films se passe bien. Donc,
j'ai jamais osé en regarder un seul encore. Après, tu vois, je pense que ce serait le genre de film qu'il faudrait que je regarde en plein après-midi, quand il y a un grand soleil, voilà, avec un petit iced tea pépère. C'est sûr, c'est pas le truc que je vais regarder le soir avant de me coucher. Oh, c'était. Alors, j'aime beaucoup Rob Zombie, parce que j'aime beaucoup sa musique, mais ces films, au secours. Et on avait regardé Lord of Salem, qui est un film de sorcière. Ouais. Pareil, sorcière horrifique, hein, la Rob Zombie. Et il y avait un passage où c'est dans le noir, vu de l'intérieur d'un appartement. T'as la porte qui s'ouvre, parce qu'il y a Nana qui rentre chez elle, donc t'as juste la lumière du palier. Elle ferme la porte, c'est dans le noir et tout. Et là, elle allume la lumière et tu as une vue sur sa cuisine. Et là, t'as un corps en décomposition d'une des sorcières qui est accrochée dans le coin de la cuisine au niveau du plafond. Mmh. Et de la voir apparaître comme ça, tu... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
Je coupe le film.
Il est tout gris, tout dégoulinant et tout. C'est... Ah! Et elle le voit pas, elle continue sa vie et tout. Tu fais, non mais meuf, c'est horrible.
Ah, mais il y a pas mal de trucs comme ça.
La colline à des yeux.
La colline à des yeux, ouais, c'est pas mal. C'est bien gore, c'est particulier aussi.
Je l'ai pas vu non plus. En fait, c'est ça, c'est qu'il y en a trop que j'ose pas parce que je dis, ah, j'ai pas envie de vomir aujourd'hui, donc je vais pas regarder un film d'horreur, tu vois. C'est trop bizarre, mais c'est comme ça. Mon mari a voulu me montrer, j'ai eu 5 premières minutes, je me suis barrée de la colline à des yeux. Ouais, c'est space quand même comme sujet en plus.
Hein. Ouais.
C'est très space. Après, quand on parle de films et de séries comme ça, c'était The Haunting of Hill House qui était vraiment génial. J'ai moins aimé Bly Manor, qui est donc pas une suite, mais une série faite avec les mêmes acteurs et un peu sur la même thématique. Je crois que c'est aussi la même troupe d'acteurs dans Usher, la chute de la maison Usher. Parce que j'ai vu les mêmes noms, j'ai vu les mêmes têtes.
Doute, ouais.
Donc, à voir si c'est dans la même continuité. Mais en tout cas, Hill House, c'était incroyable.
Ouais, je pense que ça doit être les mêmes, ouais, c'est ça.
Et il y a une scène particulièrement... Alors, pour le coup, elle n'a rien d'horrifique. Mais il y a une scène qui nous a marqué quand on l'a regardée. Ça se passe dans une morgue. C'est un enterrement.
Oula, ça commence bien.
Non, mais pour le coup, c'est vraiment juste pour un enterrement. Il n'y a rien.
Ouais.
Mais c'est un plan séquence de 25 minutes. Et ça, tu fais « Waouh !» La perf est belle, quand même. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un plan séquence, c'est quand la caméra ne coupe pas du tout. Elle ne fait que tourner d'un acteur à l'autre, d'un endroit à l'autre. Et du coup, tous les acteurs, pendant 25 minutes, ils jouent non-stop, sans s'arrêter une seule fois. Ils font leur placement quand la caméra ne les regarde pas. Enfin, c'est incroyable. C'est hyper dur à faire. Presque une pièce de théâtre, en vrai. Hein. Et en fait, tu as encore plus l'impression d'être avec eux. Parce que quand il y a des coupes, tu regardes une série, tu regardes un film. Mais quand juste la caméra tourne comme si c'était toi qui tournais la tête d'une personne à l'autre qui parle, c'est super prenant. Ah ouais, m'avait impressionné cette scène.
C'est différent. Et aussi qu'il nous dit aussi, après, j'ai beaucoup de mal avec le gore horreur, mais j'ai encore plus de mal avec le paranormal.
Ah oui, bah bienvenue sur cet audio alors. Où nous n'allons parler que le paranormal, n'est-il pas ?
Tout à fait. Bonne soirée à l'Oxy qui nous quitte.
Salut l'Oxy.
Bon week-end à toi aussi. Et n'hésite pas à réécouter le replay en podcast qui sortira donc demain si tu veux.
Exactement.
Connaître la suite de nos autres récits. Genre, tout ce qui est Paranormal Activity, c'est mort. Après, je suis parano. Ouais, au début, pareil, ça me faisait ça. Puis après, vite.
Non, je sais, c'est vraiment un truc qui
détache
m'a...
bien après.
Ça m'a jamais fait peur. Jamais un seul. Ah. Je n'ai jamais rien qui a bougé sous mes yeux, mais j'ai travaillé à Disney pendant presque 6 ans.
Ah, le fantôme
de
Disney.
Ouais, bah, moi je travaillais dans 3 boutiques au Disney Village qui étaient une seule équipe et il se passait des trucs chelous des fois. Il se passait vraiment des trucs chelous et une fois j'ai presque badé. C'était une époque où alors, toute la journée, la caisse n'avait pas arrêté de biper comme si quelqu'un essayait de passer sa carte et que ça ne la lisait pas, parce que ça marquait erreur lecture badge. Bon, voilà. Je ne sais pas qui est-ce qui essaye de passer son badge, mais vraiment, on l'a regardé faire et ça bipait, alors que ça l'avait jamais fait, ça l'a jamais refait. On sait qu'il y a eu plusieurs employés et visiteurs décédés à Disney au cours de ses 30 ans d'existence, bien sûr. Et donc, le soir, je me retrouve toute seule à remplir la boutique, donc je fais ma petite liste, je vais chercher dans le stock, je reviens, et à un moment, j'entends une petite musique.
Oh là là.
D'où ça vient?
Mais tu sais que je me serais déjà barré depuis longtemps.
Moi non, je dis mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Et je cherche un peu. Et en fait, on vendait des boîtes à musique et il y en a une qui s'était ouverte et qui tournait. Je fais d'accord. D'accord. Bon, je l'ai refermée. Je fais tu vas pas me faire chier là, il faut que je termine de ranger. Et après, je me casse. Et ça l'a jamais refait. C'était trop chelou. Mais par contre, bah, je l'ai raconté à mes collègues avant de partir. Alors, il y en a déjà deux, trois qui ont dit non, mais ok, moi je reviens plus bosser là-bas. Je vois, c'est pas grave. Et il y en a un qui m'a dit bah, tu sais quoi? Donc lui, c'était à Disney Gallery, donc là où ils vendaient que des figurines. Il m'a dit je sais que les figurines, surtout un modèle, je sais plus lequel, je les plaçais toujours de la même façon. J'avais fait tout mon rangement. Je suis revenu un quart d'heure plus tard. Il y en a une qui était tournée d'un quart de tour. J'étais tout seul, je sais que personne n'est passé parce que toutes les portes étaient fermées et celle-là n'était plus à sa place. C'est le fantôme du Disney Village qui des fois fout un peu sa merde.
Le fantôme de Disney, voilà.
Et ça l'a jamais refait. Alors est-ce que c'est juste le mécanisme de fermeture de la boîte à musique qui était mal enclenché? Est-ce que je sais que les visiteurs aimaient bien les remonter, les écouter, les refermer? Très certainement qu'elle s'est juste ouverte parce que le ressort était mal enclenché. C'est pour ça que ça m'a pas fait peur plus que ça. Il s'est pas attaqué à moi directement, il a juste dit tiens, dans les films d'horreur, il y a toujours une petite boîte à musique flippante, alors je vais faire pareil.
On ne saura jamais.
On ne saura jamais. Voilà.
Et dans le même type, il m'est arrivé quelque chose pareil. Plus jeune, je travaillais en hôtellerie-restauration, donc j'étais dans un restaurant parisien. Fin de service, 21h30, 22h, voilà. On avait fait zéro couvert, donc un peu triste. Et il y avait une table qui était au fond du restaurant, dans un coin. Ouais. Je vais pour débarrasser les tables et je vois un mec assis sur la table. Donc, je vais voir mon responsable. J'arrive et je lui dis, y a un monsieur qui est assis dans le coin là-bas. Est-ce que tu peux lui ramener les cartes et prendre sa commande? Comme ça, voilà, on enchaîne. Mon responsable, il va, il revient deux secondes après. Il me dit, mais il n'y a personne en fait là-bas. Putain, mais j'ai vu quelqu'un, c'est sûr et certain, j'ai vu quelqu'un. Et putain, et ça m'a toujours marqué à vie. J'ai dit,
bah, tu m'étonnes.
Qu'est-ce que c'était que ça? Et le mec, je me souviens parfaitement, un vieux monsieur en costard, machin et tout, qui était assis comme s'il attendait la carte et tout. Et en fait, tu vois, n'importe qui aurait pu te dire, le mec aurait pu se barrer, voilà, le temps que j'aille chercher mon responsable. Oui. Mais non, c'était juste à côté. Hein, allez, il s'est passé quoi? 5 secondes, 10 tout au plus.
Donc, à moins qu'il soit parti en Naruto Run, c'est mort.
Voilà. Et le mec, on l'aurait vu sortir de toute façon. Ouais. Je l'aurais vu parce que ça donnait vraiment sur toute la salle. Donc, dans tous les cas, on l'aurait vu se déplacer. Et voilà. Et du coup, ça m'a marqué à vie. J'ai dit, oh là, voilà, c'est des choses comme ça. Tu dis, putain, bon.
Toi, c'est encore pire parce que c'est une vraie apparition. Moi, c'est un truc que potentiellement je peux expliquer.
Je sais même pas l'expliquer. Voilà. Je pense que c'est une apparition, mais voilà. Et on a aussi dans le chat qui me dit dans son lycée en internat, pendant 3 années d'internat, il s'est passé des trucs de fou aussi. Mmh. Ah bah vas-y, tu sais quoi aussi, pendant qu'on va expliquer les deux prochains récits, tu vas nous écrire ton histoire d'internat et on va en parler après.
Et si vous aussi, vous avez vécu quelque chose de paranormal, n'hésitez pas à nous le raconter.
N'hésitez pas, ouais.
Eh ouais, hein. Ou que comme moi, vous dites, oui, il y a certainement une... Ça m'a rendu flou, vous voyez. Il y a certainement une explication logique, mais que ça ressemble un peu trop à un gimmick de film d'horreur. C'est trop cool.
Ah, tu auras toujours des explications rationnelles.
Oui. It's a small world, en vrai, c'est potentiellement horrifique. Grave.
Ouais. Ça fait comme... C'est creepy.
Les phobies que des poupées, les voir avec un mouvement mécanique, à tourner la tête d'un côté et de l'autre, avec cette musique entêtante.
Alors, je tiens à dire, ça, c'est ma petite. Voilà, je suis corporate avec mon travail. C'est mon travail qui s'occupe de. C'est ma boîte qui s'occupe de régler les, tout ce qui est vérin électrique sur, les, sur le It's a Small World dans,
pas vrai.
Chez Disney.
Oh là là.
Oui, si, si, si. Donc, d'accord. Du coup, ils sont amenés. Tout le matériel qui est dans cette attraction vient de mon travail.
Ok. Voilà, et bah, du coup, vous pourriez corporate. Travailler un peu mieux parce qu'ils sont un peu rouillés.
Oui, tout à fait. C'est justement le gros projet sur lequel ils ont travaillé l'année dernière. Justement. Bah,
apparemment, je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment mené à bien, comme d'habitude. Parce que quand je vois le nouveau C3PO dans le Star Tour, qui est extrêmement fluide, on pourrait croire qu'il y a un humain dedans. Small World, elles sont un petit peu rigides. Hein, donc, ouais. Mais je pense que ce n'est pas le même budget de changer un animatronics et 600.
Je pense.
Donc, bon. Mais ouais. Et est-ce que vous savez, pour la petite anecdote, d'où vient cette musique de It's a Small World ?
Non, vas-y.
Eh bien, à l'époque, Disney a demandé à un de ses amis compositeurs pour une attraction tout à fait similaire. Dis, j'aimerais bien une musique qui reste dans la tête des gens. Tu peux me composer ça ? Je pense qu'on peut dire qu'il a réussi, qu'en 100 ans plus tard, personne ne l'arrive à se l'enlever de la mémoire. Voilà. Donc, c'est tout.
On peut le dire. Définitivement, il a réussi sa mission. C'est
lui aussi
mission
vient
réussie.
Nous hanter. Hein.
Voilà. Tout
l'école emportée de Kazuo Mezu, c'est cool aussi. C'est un rapport avec l'école décomposée. Aucun rapport. Mais il faut que je lise aussi.
Eh bien, justement, très bonne transition de C'est pour les gamins. On va parler de l'école décomposée de Junji Ito.
Oui, mon tout premier Junji Ito.
Ah, il en fallait bien.
Oui, alors j'avais dit que ce serait Spirale. Ce sera pour plus tard. Voilà. On m'a assuré qu'apparemment, il n'y avait pas tant d'escargots que ça. Donc, bon, je vais prendre sur moi et je lirai. Mais toi, il faut que je t'en trouve un avec des petits trous. Hein. T'inquiète
fait,
pas, que tu vas pas y échapper.
Mais non, je sais bien.
Enfin, bref. Donc, l'école décomposée. Je ne sais pas si on doit le prendre comme un récit complet avec plusieurs chapitres ou plusieurs petites histoires qui sont liées les unes aux autres. En vrai, ça peut être un peu des deux. Donc, les deux qu'on voit sur la couverture, qui sont Yuma, le grand frère, et comment elle s'appelle ? Chizumi, la petite sœur, arrivent. Enfin, surtout le grand frère arrive dans une nouvelle école. C'est pas ça le premier chapitre. Bref, toujours est-il qu'à chaque fois qu'il côtoie quelqu'un, ce mec passe son temps à s'excuser. Et quand, mais vraiment, il se prosterne au sol, il dit « Mais je m'excuse, je suis navré, veuillez me pardonner, tout est de ma faute, excusez-moi. » Et la personne à qui il s'excuse se met à fondre de l'intérieur. Sa cervelle lui coule par les yeux, par le nez, par les oreilles, jusqu'à finir par terre. Sa petite sœur arrive et dit « Ah, mais c'est pas du tout à vous qui s'excuse, c'est au démon avec qui il a pactisé. » Fin de l'histoire. Histoire suivante, il a déménagé. Et là, il y a une nana qui a rendez-vous avec une de ses anciennes amies, qui est toute contente de la revoir. Et son ancienne amie arrive avec une gueule difforme. Donc elle est choquée. Elle dit « Mais comment ça se fait que tu... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle fait « Ben quoi ? Je suis magnifique. Mon petit ami n'arrête pas de me le dire. » Yuma, que revoici, qui dit « Mais oui, tu es belle. Ta beauté est sans égale. » Et plus il dit ça, plus elle se déforme. Et la petite sœur qui court après la copine du début, qui dit « Non, mais mon frère s'il fait des compliments... » C'est pas à la personne en face de lui. C'est au démon avec qui il a pactisé. Et donc, il se met avec cette meuf-là, finalement, parce que l'autre, bon, bah, elle fond et elle meurt, hein, donc bon, on passe à la suite. Et bah, elle aussi, elle se met à fondre. Et elle meurt. Et en fait, c'est ça, au fur et à mesure, les deux, là, le frère et la sœur, ils vont toujours devoir déménager. Et la petite sœur, en vrai, elle a une vraie tête de psychopathe et un vrai comportement de folle, parce qu'elle vraiment elle court après les gens, elle leur saute dessus, elle a les yeux exorbités, elle a une langue gigantesque qui lui pend de la bouche. Et à côté de ça, le frère avec sa petite coupe au bol parfaite, son petit uniforme toujours bien apprêté, qui passe son temps à s'excuser, à faire des compliments en genre, on se dit ouais, il essaie juste un peu de sauver les apparences et de maintenir sa petite sœur, parce qu'on apprend que leurs deux parents sont morts quand elle était toute petite, paraît-il, et que du coup... elle a gardé un certain traumatisme de ça. Mais finalement, quand on l'entend, elle, raconter que non, son frère, il a pactisé avec le diable, parce que ça l'amuse, en fait, on se dit, mais c'est qui le plus fou des deux, en fait? Clairement, la petite sœur, elle paraît pas si dégénérée que ça. Bon, en vrai, si, hein, quand on continue un peu l'histoire, si. Et voilà, on va le suivre sur peut-être 5-6 chapitres comme ça, différents, dans ses pérégrinations et... C'est tous les gens qu'il fait fondre. Il y a une pseudo-résolution. C'est une fin ouverte, un peu à la Stephen King. Donc, admettons, vous avez lu ou vu Cimetière. Bon, ben, à la fin, le gamin ressuscite. Fin. Voilà, démerde-toi avec la suite. À toi de décider ce qui se passe.
Ouais.
Ben là, c'est un peu pareil, le même type de fin. Il se passe quelque chose qui aura des conséquences, forcément, mais on les a pas. Voilà, à toi de déterminer. Donc, moi, j'aime bien les fins ouvertes. J'ai tellement lu de Stephen King que ça me dérange plus. Si vous aimez pas ça, ça va vous frustrer. Et après ça, il y a deux micro-histoires de genre 3 pages qui n'ont rien à voir, mais je pense qu'elles ont juste été rajoutées pour compléter le tome. Et en vrai, elles sont sympas aussi. Elles ont, pour le coup, vraiment aucun sens, hein, surtout la deuxième, où il y a des gamins de maternelle qui se sont perdus pendant leur excursion. Les parents les retrouvent, ils sont enfouis sous terre jusqu'à presque aux épaules. Ils n'arrivent pas à les en sortir. Voilà. C'est tout. C'est bon. Fin de l'histoire. Donc, voilà. Tout ce qui est école des composeurs, ça... L'école décomposée, le bâtiment décomposé, que les trucs décomposés comme ça à chaque chapitre. C'est très cool. Voilà, essayer de savoir un petit peu bah, c'est quoi cette histoire de démon, c'est quoi cette sœur, qu'est-ce qu'elle fait à la maison. Je vous le dis pas. Mais voilà, vraiment, je l'ai lu très vite. Pour le coup, pourtant c'est un tome qui est assez épais, mais allez, en même pas une heure, il est terminé. Mais j'ai l'impression que c'est pas mal l'histoire de Junji Ito, parce que vu que les images sont vraiment très précises, il fait beaucoup de grandes cases, ça défile. Et il n'y a pas besoin que les personnages parlent beaucoup pour qu'on comprenne ce qui se passe. Donc forcément, ça se lit vite. Mais il est très sympa. Toi qui n'avais pas trop aimé Rimina, parce que la fin t'avait sorti de la crédulité, en fait, là, c'est pas un problème qui s'est posé. Parce que dès le début, ça part vraiment dans un truc irréaliste au possible. Ça parle de démons, ça parle de gens qui fondent. Alors même quand il se passe un truc what the fuck, tu fais ouais, ok. Donc, très très cool. J'ai bien aimé.
D'accord, très bien. Bon, ça, c'est pas mal. Est-ce que vous, dans le chat aussi, vous l'avez lu? Et est-ce que vous avez aimé ce récit ou pas? Voilà.
Après, il est vrai que je peux moins en parler parce que bah, c'est qu'un seul tome. Donc, bon. C'est pas comme.
Oui, voilà, c'est fait comme tu dis, on peut le prendre comme soit un récit, un one-shot directement, ou sinon un livre avec plusieurs recueils, un peu comme Fragments d'horreur, où il y a plusieurs petites histoires. Est-ce qu'on peut le prendre comme ça aussi?
Bah, est-ce que Fragments d'horreur, c'est toujours les mêmes personnages?
Non. Alors, par contre, Fragments d'horreur, c'est vraiment divisé en plusieurs petites histoires. J'avais adoré ce récit-là.
Là, pour le coup, il me ferait presque plus penser à une mini-série. Une série où il y avait 5-6 épisodes. Voilà, ce serait ça. Parce qu'on suit quand même leur évolution à ce frère et cette sœur, et voilà. Il y a un début, il y a plus ou moins une fin, et ciao, quoi. Donc, ouais.
Effectivement.
Mais c'est vraiment sympa. Alors, pour le coup, la posture de la sœur, c'est clairement Soichi. Si vous avez déjà vu Soichi dans certains de ses récits, ouais, il aime beaucoup les dessiner comme ça, avec un peu les bras au-dessus de la tête, les mains griffues et un sourire un peu extatique. Donc, ça, c'est dans la bonne veine d'un Junji Ito.
Bon, bah ça.
Ça me donne envie d'en lire d'autres, en tout cas.
Ah, bon, bah ça, tant mieux. Et je te conseille d'ailleurs le Fragment d'horreur qui est très, 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 très bien. Si, voilà, si.
Eh bien.
Si tu découvres Junji Ito, voilà, ça peut être pas mal. Moi, j'ai découvert grâce à ça et j'ai envie d'en lire d'autres. Et donc, je pense que L'école décomposée, oui, il y a de fortes chances que je le lise aussi.
Ah, il est dégueulasse, hein, par contre, question dessin aussi. Attention.
Oui, bah après, Junji Ito, hein, je pense que voilà, une fois que t'en as fait. Tu sais, une fois que j'ai lu Pumpkin Night, voilà.
Bah, c'est pas dégueulasse ça pareil, hein, parce que là, vraiment, toute cette cervelle qui coule de partout, il fait ça bien, hein, quand même. Hein. Il fait ça très bien. Donc, puis même, ouais, les gens qui se décomposent sous les compliments d'Yuma, enfin, ouais, c'est space et c'est très bien fait. Mais ouais, c'est très cool. Mais effectivement, toi, t'es habitué. Ça devrait pas
être affaire à suivre, du coup.
Exactement. Et du coup, toi, tu vas nous parler cette fois-ci d'une série longue et terminée.
Enfin, longue, oui. Enfin, longue, 13 tomes pour l'instant. Mmh. Bah, 13 tomes, même tout court, parce qu'elle est terminée.
Oui.
Donc, il s'agit de Gannibal. J'en avais beaucoup entendu parler. Donc, c'est édité
notamment par moi.
Notamment par toi, oui, tout à fait. C'est édité chez Meian aussi. Meian qui fait du très bon boulot avec la série Kingdom, bien sûr, que j'adore aussi. Du coup, Gannibal, c'est l'histoire tout simplement de Daigo Agawa. C'est un policier de son état qui a été détaché à Kuge, à Cougé, je pense aussi, un village de montagne reculée, et bien que la communauté l'accueille chaleureusement, lui et sa famille, la mort d'une vieille villageoise fait jaillir les doutes quant à la normalité de ce lieu. Et bah ouais, parce qu'au final, on s'aperçoit que les habitants sont peut-être cannibales.
D'où le titre.
D'où le titre, déjà. Et puis voilà, quoi, c'est... pile poil dans la veine de ce que j'aime bien comme récit. Ça monte en intensité au fur et à mesure des pages, au fur et à mesure des volumes. Ça prend son temps, je trouve, ce qui est plutôt pas mal. On a des personnages, je pense qu'à mon avis, ils vont me faire péter un plomb d'ici la fin de la série. Donc pour l'instant, j'ai uniquement les 4 premiers tomes. J'ai lu juste les 2 premiers.
Je croyais que tu avais tout lu.
Mais non.
Oh, you're not ready.
Quand je suis passé... La dernière fois, quand je suis passé, j'ai pris le tome 3
c'est
et 4.
C'est vrai.
Mais voilà, du coup, j'ai les 4 premiers tomes. J'en suis au tome 3. Je vais commencer le tome 3. Donc effectivement, pour l'instant, ça monte en intensité. Moi, je voulais juste vous parler du tome 1 aujourd'hui. Je trouve que c'est un parfait récit, si vous voulez lire, de l'horreur. Alors, pour moi, c'est un mélange un peu d'horreur psychologique et d'horreur classique. Il n'y a pas trop de scènes gore, voilà, mais c'est juste des sous-entendus qui au fur et à mesure font réfléchir et se dire, mais attends, mais tel personnage là, il est un peu chelou, on va voir comment ça va évoluer au fur et à mesure. Donc voilà, et moi j'adore ce type de récit. C'est scénarisé et dessiné par Masahari Ninomiya. Ninomiya. Je triche un peu, voilà. Donc c'est voilà, il y a pas mal d'événements étranges qui se passent dans le village. Donc ce sera sûr. Et d'ailleurs, dès le tome 2, on s'aperçoit au fait que le personnage principal, bah, lui non plus, il n'est pas forcément blanc comme neige. Donc voilà, c'est vraiment appréciable. Encore une fois, gros travail de Meian sur les covers. Elles sont vraiment sublimes, que ce soit pour Kingdom ou même pour Gannibal. Franchement, c'est incroyable. C'est des couvertures magnifiques. C'est comme Ki-Hoon quand il nous sort des récits comme Les Liens du Sang, etc. C'est sublime.
Vrai. C'est vrai. Est-ce que alors moi, pour le coup, j'ai lu entièrement Gannibal. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et surtout, sur toutes les couvertures, tu vois lui.
Oui.
Qui est un mec assez étrange, qui traîne dans le village de Kuge, qui n'a pas l'air de beaucoup parler. Que tout le monde craint en l'appelant lui, qui fait 2m15. Et sur la couverture du 1, on le voit avec une brouette, avec un corps coupé en morceaux à l'intérieur. Donc ça vous donne un petit peu l'ambiance.
C'est vrai que je viens de tilter qu'en fait, c'est toujours lui sur les covers.
C'est toujours lui dessus.
Mais oui.
Même si tu le vois pas dans le tome, c'est lui sur les covers.
D'accord, effectivement.
Et un truc que j'ai beaucoup, beaucoup aimé avec Gannibal, c'est que... C'est pas du tout manichéen. T'as les gentils qui peuvent être des connards et t'as les méchants qui le sont pas tant que ça. En fait, ils font vraiment très très humains les personnages. Ça. Comme tu disais, le flic, le personnage principal à Daigo, ouais, c'est pas un flic de la municipale qui met des PV sur les voitures mal garées. Non, non.
Ah non, non.
Lui, à un moment, il est arrivé un truc à sa fille, il a pas hésité une seconde.
Voilà.
Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont envoyé, c'est peut-être pour ça qu'ils n'auraient pas dû l'envoyer.
Mais c'est ça que j'aime bien, justement, c'est que là, il n'y a pas de... tout n'est pas blanc et noir, il n'y a pas d'un côté les gentils, les méchants, comme dans certains récits. Là, c'est directement... Là, on peut dire que c'est gris, c'est voilà, ils n'hésitent pas à franchir la limite parfois. Donc j'espère que ça va continuer comme ça tout au long des prochains tomes. Et je pense que oui, parce que si t'as apprécié, je crois qu'Alex aussi l'avait lu et a bien aimé.
Bah c'est lui qui m'a dit voilà. Ligue Hannibal
voilà. Donc je pense que de toute façon, voilà, j'ai été bien conseillé sur ça. Donc voilà, ce sera ma lecture, je pense, de fin d'année. 13 tomes, ça va, je pense que c'est raisonnable. Donc au fur et à mesure, on va lire ça. Et ça peut être intéressant. Voilà. Ça, en plus, oui, c'est vrai que ça se lit assez rapidement. Ouais. C'est pas bon. Je vais me faire taper sur les doigts par certains auditeurs à force de dire ça, mais c'est pas comme Death Note où c'est très 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 long à lire.
Non, ça c'est clair. Et même, tu vois, au long des 13 tomes, t'as aucun passage à vide. Souvent, des fois, dans les thrillers comme ça, t'as l'enquête qui piétine un peu, ouais, ils repartent peut-être un peu dans des souvenirs, et du coup, c'est un peu chiant. Là, non, ça avance. Et ce qui est bien, donc, Daigo est envoyé pour enquêter dans ce village parce que un de ses collègues flics a disparu. dans ce village-là. C'est pour ça qu'il doit y aller. Mais s'il y avait un flic qui était sur place, c'est que l'enquête, elle avait déjà commencé. Donc lui, il reprend le train en marche. Et c'est pour ça que ça traîne pas, en fait. Il y a déjà tout qui est lancé, contrairement au thriller habituel où bah, il arrive, il va commencer à mener sa petite enquête, et puis il faut qu'il demande des autorisations et des machins et tout. Parce que là, c'est pas juste un gars lambda qui va enquêter de son côté. Non, c'est vraiment un flic, il a des procédures à suivre. Mais tout est déjà lancé. Donc ça trace. Il n'y a pas deux secondes où on se fait chier, quoi. Et ça, c'est vraiment trop bien. Parce que pour le coup, quand on a parlé du bateau de Thésée, il y avait peut-être des moments un peu plus plats. Là, c'est pas le cas. Ça envoie vraiment du lourd tout le temps. Et j'ai un personnage préféré qui, je pense, doit être le préféré d'à peu près tous ceux qui ont lu Gannibal, parce que, oh, qu'est-ce qu'il est bien écrit. Il est incroyable. Donc, tu me diras lequel t'as vraiment marqué quand tu auras tout terminé. Parce que, on va voir pas si on aime le même.
Pas de problème, je note.
Si je m'abuse, c'est ça. Le préféré d'Alex également.
Je te dirai ça, je sais pas, une fois que j'aurai bien avancé dans la lecture.
Donc, ouais, tu me diras ça, avec plaisir.
Régie, ton personnage
ouais,
préféré.
Ouais, la régie Gannibal. Ne répond plus. C'est qui ton personnage préféré de Gannibal?
Moi, je dirais Daigo.
Ah, c'est Daigo, toi?
Ouais.
Ah, moi, c'est pas Daigo.
Moi, c'est Kaisuke. On va voir.
Ah ouais.
On va voir au fur et à mesure.
Moi, c'est lui. Ça.
Donc, voilà. Je sais qu'il y a des fans de Gannibal, voilà, et puis dans le chat, c'est pour les gamins qui disent en tant que cannibal, j'ai peur d'être déçu en lisant Gannibal.
Eh ben non, justement, il y a des bonnes recettes.
Bah oui, attends. Ouais.
Alors oui, par contre, trigger warning, si vous êtes sensible à la maltraitance, au viol, oui. Voilà, sachez qu'il y en a. Si vous êtes sensible à la mutilation et au visage des... vraiment déformé, il y en a. Ça reste des gens qui bouffent d'autres gens. L'humain n'est pas fait pour ça. Ça détraque un petit peu le cerveau. Voilà.
Ça.
Donc, je préfère prévenir. Ça reste quand même donc, très voilà. Trash. Mais
tout
c'est génial.
Tout à fait. Exactement.
Alors, faisons voilà. Un petit tour du chat. Donc oui, Océ était en train de nous raconter ces histoires horrifiques.
Océ nous a raconté toutes ces histoires horrifiques. On va lire tout ça après l'enregistrement du podcast. Et oui, hein, comme ça, ceux qui écoutent le podcast, n'hésitez pas à venir sur nos lives. Comme ça, vous avez des petites histoires bonus. Comme ça, c'est toujours intéressant.
Exactement.
Alors,
Sabine nous dit que les dessins sont vraiment excellents. C'est vrai que le dessin de Gannibal est vraiment très beau. Parce qu'il est très réaliste en vrai. Mais pas trop.
C'est ça.
C'est ça, en fait, que c'est bizarre, c'est pas facile à évaluer. Parce que, bon, ça, c'est du dessin seinen, hein, clairement, avec des yeux de la bonne taille, des cheveux coiffés correctement, voilà. Mais ça a quand même un air très crayonné. Pareil, comme je disais tout à l'heure, on voit qu'il a tout fait au crayon, en fait. Hein. C'est pas fait à la tablette.
Ça se voit. Mais ne serait-ce que, par exemple, je vais montrer à la caméra...
L'ours.
Hop, voilà, l'ours. Ne serait-ce que l'ours, déjà, c'est super bien, c'est super bien dessiné, quoi. Je veux dire, à un moment, voilà, quoi.
Alors, la régie va intervenir.
La régie intervient.
À la base, l'auteur de Gannibal, c'est pas du tout son truc de faire des mangas. Il a fait ça comme ça et il pensait pas que son histoire allait vraiment marcher de ouf. Et vraiment, pour lui, c'est une histoire comme ça.
Il faisait ça pour le fun.
J'ai eu du pif.
Je pense qu'il a eu du pif.
Ce qu'il voulait faire,
Parce que du coup, Alex a eu l'immense honneur de rencontrer l'auteur. Parce qu'il est venu à la Japan Expo en dédicace. Et du coup, il a acheté le tome 13 Collector pour se le faire dédicacer à ce moment-là. Donc, on a un magnifique dessin de lui sur la couverture. Enfin, l'intérieur de la couverture du tome 13.
Le nain Balin de Shiga qui l'a interviewé.
Ah, d'accord, oui. Donc, on a un client à la boutique qui bosse pour le magazine GAAK. Si vous ne connaissez pas, allez jeter un œil. GAAK. Et du coup, c'est lui qui a interviewé l'auteur de Gannibal à la Japan Expo et qui nous racontait tout ça. Et ouais, nous avons des infos intéressantes à la boutique.
Bah oui, tout à fait. Tout à fait.
Je vais faire des cauchemars toute la nuit. Ouais, bah tu m'étonnes en ayant lu les histoires horrifiques d'Océ et en ayant écouté nos horreurs.
On va lire tout ça après. Donc n'hésitez pas dans le chat ou même en commentaire si vous écoutez en podcast, donc de nous dire si vous avez aimé Gannibal ou si vous n'avez pas aimé, pourquoi, voilà.
Ça vous tente de lire cette histoire, ma foi, voilà. Fort ragoûtante.
Tout à fait, exactement. Donc voilà pour ce nouvel Ota Club. Donc on aura parlé de quatre ici, donc Slice of Horror, L'École décomposée, Pumpkin Night et Gannibal. Donc voilà. Mettez-nous en commentaire si vous avez apprécié ces récits, si vous comptez les lire, voilà, hein, ça nous ferait plaisir d'avoir des retours sur ces quatre récits horrifiques pour cette émission spéciale Halloween.
J'aime bien, on a vraiment ratissé large, c'est trop cool. Vous avez que l'embarras du là. Choix.
Là, effectivement, on a ratissé large dans l'horreur. Là, voilà. Ouais. Il y a du gore, il y a du pas trop gore, il y a du psychologique.
Du surnaturel, ouais, voilà. On est bien là.
On est pas mal, c'est pas mal.
Et ben, j'ai beaucoup aimé parler de toutes ces histoires d'horreur, moi en tout cas.
Et ben voilà, ben moi aussi. Andrea, merci encore une fois pour cette émission. Et puis ben, on se retrouve très rapidement la semaine prochaine pour parler d'autres mangas qu'on a aimés, qu'on voudrait faire partager à notre public.
Tout à fait, merci à toi, merci à vous dans le chat pour vos commentaires et merci à vous au podcast pour vos commentaires également. Ça fait très plaisir.
Voilà, merci tout le monde et on vous dit à la semaine prochaine. Salut.
Salut.